Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèle à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Comme d'habitude, cette émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, et après, l'histoire d'aujourd'hui est la mise au point. Pour le programme suivant, vous pouvez écouter le magazine culturel qui sera suivi par Apprendre l'Indonésien. Et ensuite, vous pouvez écouter également l'Indonésie en couleur. Et avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie continue de soutenir la création de la paix dans la péninsule coréenne. La Corée du Sud, le cinquième plus grand investisseur en Indonésie. L'Indonésie et la Corée du Sud renforcent la coopération bilatérale. Le ministre des Transports indonésien demande le soutien pour que l'Indonésie puisse devenir le membre du conseil de OACI. L'Indonésie est destinée à devenir un grand exportateur de café torréfacteur dans le monde. Le gouvernement provincial de Java Central encourage les exportations de batik. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Les questions impliquant les deux pays sur la péninsule coréenne, à savoir la Corée du Sud et la Corée du Nord, ont duré longtemps et n'ont pas encore trouvé la solution. Les deux pays sont toujours en désaccord et donnent l'effet négatif sur la paix du monde entier. Par conséquent, l'Indonésie et d'autres pays dans tout le monde continuent de soutenir la solution pacifique des différends entre les deux pays. Il a été affirmé par le président du Parlement indonésien, M. Ade Komarudin, dans son discours lors de la Journée nationale de la Corée du Sud et la Journée des forces armées de la Corée du Sud, vendredi, le 30 septembre 2016, à Jakarta. En tant que représentant du peuple indonésien, j'insiste, le gouvernement de l'Indonésie a coopéré avec d'autres parties internationales afin de discuter, de recommander les solutions immédiates et durables pour les deux pays, la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée. Ade Komarudin a également ajouté que le soutien de l'Indonésie à la solution des problèmes entre la Corée du Sud et la Corée du Nord était l'une des formes de la réalisation d'un message des pères fondateurs de la nation pour que l'Indonésie continue de maintenir activement et établir la paix mondiale. La coopération entre l'Indonésie et la Corée du Sud, qui a établi plus de 4 décennies depuis 1973, se développe d'année en année. L'un des domaines de la coopération qui est en croissance est le domaine économique. L'Indonésie est un partenaire stratégique de la Corée du Sud dans le domaine économique, notamment en termes d'investissement. Cela a été affirmé par le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, M. Rudiantara, dans un discours à la fête nationale du Sud-Coréen et la journée des forces armées de la Corée du Sud vendredi, le 30 septembre 2016 à Jakarta.
In the economic field, in 2015, Korea placed itself as the fifth.
Dans le domaine économique, en 2015, la Corée a placé comme le cinquième plus grand investisseur en Indonésie et pour atteindre 1,2 milliard de dollars américains dans plus de 2000 projets. Le président Park a engagé à encourager l'investissement de la Corée en Indonésie, notamment dans le domaine des infrastructures, l'énergie, l'acier et la fabrication. Le ministre Rudiantara a également ajouté que le commerce entre l'Indonésie et la Corée du Sud se développait aussi avec la valeur commerciale croissante de 16 milliards de dollars américains. Le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, M. Rudiantara, a déclaré que la coopération entre l'Indonésie et la Corée du Sud dans divers secteurs se renforce d'année en année. L'un des domaines de coopération stratégique continue d'exister et sera renforcé est le domaine de la défense. Cette coopération mutuellement bénéfique n'a pas arrêté ici. Nous avons même développé une coopération bilatérale plus stratégique, à savoir l'industrie de la défense. Pour les deux dernières années, les ingénieurs des deux pays ont travaillé ensemble pour construire des avions de chasse et les sous-marins étaient absolument pour auto-développer. Le ministre Rudiantara a ajouté que la coopération bilatérale actuelle entre l'Indonésie et la Corée du Sud est plus renforcée en augmentant les relations entre les peuples des deux pays. Ces améliorations apparaissent à travers l'approche socio-culturelle qui est caractérisée par une augmentation des visites touristiques entre les deux pays et la coopération dans le domaine de l'économie créative. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre des Transports, M. Budi Karya Sumadi, continue à obtenir le soutien des États membres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, ou ICAO, à Montréal, le Canada, pour que l'Indonésie puisse devenir le membre de cette organisation. Le responsable de la communication et de l'information, M. Hemi Pamura Harjo, dans un communiqué de presse reçu par Republika en ligne, a déclaré dimanche que le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a fait des réunions avec des représentants de plusieurs pays pour mener l'approche directe afin que ces pays soutiennent l'Indonésie devenir le membre du conseil de OACI pour la période de 2016 jusqu'à 2019. L'élection des membres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale aura lieu le mardi 4 octobre 2016 et participée par tous les États membres. Le ministre de l'Industrie est optimiste que l'Indonésie peut devenir un important exportateur de café torréfié aux grands torréfiés en Asie et dans le monde. Comme le quatrième plus grand producteur de café dans le monde, l'Indonésie a un grand potentiel dans le développement de l'industrie de transformation du café. À cette fin, le développement de l'industrie est fait en augmentant la valeur ajoutée des grains de café et l'amélioration de la qualité du café transformé, notamment le café torréfié, à travers la maîtrise de la technologie de torréfaction. Il a été dit par l'autre fonctionnaire du ministère de l'Industrie, M. Pangga Susanto, dimanche à Jakarta. L'autre effort est d'augmenter la capacité des ressources humaines. Il est engagé à développer l'industrie de transformation du café dans le pays par de divers programmes et politiques stratégiques. Le gouvernement provincial de Java Central efforce d'optimiser l'exportation de batik de diverses régions afin d'augmenter les recettes local. Le membre de la commission B du Parlement régional de Java Central, M. Ihsan Mustafa à Semarang, a déclaré dimanche que jusqu'à présent, la contribution des exportations de batik ne peut pas encore augmenter le revenu dans le centre de Java. Donc, il doit être optimisé. Selon lui, la province de Java Central possède de nombreux motifs de batik qui peut être vendu à l'étranger. L'industrie du batik peut augmenter l'économie régionale. Maintenant, le batik de Java Central a pénétré le marché international. Le batik est l'héritage culturel des ancêtres. Il a aussi une valeur économique élevée. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le sens de Pancasila ». Pancasila est la base et idéologie de l'État indonésien. Ce nom est formé à partir des mots sanskrits « panca » ou « sen » et « sila » qui signifie « principe ». Pancasila est la formulation et les lignes directrices nationales et de l'État pour tous les Indonésiens. Pancasila est définie comme la base de l'État depuis le 18 août 1945. Mais l'incident sanglant a eu lieu le 30 septembre 1965 étant prétendument a été fait par le Parti communiste indonésien ou PKI a été considéré comme une tentative de remplacer l'idéologie Pancasila devenue idéologie communiste. L'incident qui est devenu connu comme le J-30, six généraux et un capitaine ont été tués et ont mis dans un trou dans la région de l'est de Jakarta, connu sous le nom Lubang Buaya, par des éléments que le gouvernement décrit comme une tentative de coup d'État. Les problèmes qui découlent à cause du J-30 finalement peuvent être supprimés avec succès par l'autorité militaire indonésienne, qui était dirigé par le général Suharto, qui est devenu plus tard le président de l'ère de Nouvel Ordre, remplaçant Sukarno. Le gouvernement du Nouvel Ordre a fixé le 30 septembre comme la journée de la commémoration du mouvement le 30 septembre et 1er octobre défini comme le jour de Kesaktian Pancasila. L'incident du mouvement 30 septembre est encore en discussion dans les milieux universitaires au sujet qui l'a fait et quel est le motif. Mais comme une nation qui respecte les valeurs de Pancasila, la nation indonésienne doit être reconnaissante que le communisme ne peut pas vivre et développer dans ce pays. Pancasila est non seulement idéologique, mais aussi l'identité de la nation indonésienne. Les valeurs contenues dans Pancasila se reflètent dans la vie quotidienne de la nation indonésienne. Le premier principe est la croyance en un Dieu unique, reflète que l'Indonésie depuis la première est une nation qui connaît et adore le Dieu. Le sens du deuxième principe, une humanité juste et civilisée, possède des valeurs humaines. La reconnaissance et le respect des droits d'autrui, l'aide mutuelle et se comporter comme un homme civilisé. L'unité de l'Indonésie est le troisième principe. Il existe les valeurs de l'unité qui possèdent le sens, bien que l'Indonésie soit un archipel et habité par divers groupes ethniques, mais il faut rester maintenir l'unité. Une démocratie guidée par la sagesse à travers la délibération et la représentation est le quatrième principe qui signifie la souveraineté appartient au peuple. Ils ont le droit de choisir leur propre représentant à une position, le droit et les mêmes obligations. Les valeurs contenues dans le quatrième principe et les gens indonésiens respectent la délibération pour atteindre un consensus. Le cinquième principe est la justice sociale pour tout le peuple indonésien. Pour obtenir ces droits, le peuple indonésien doit également respecter d'autres personnes afin d'obtenir la justice. Espérons que l'Indonésie peut appliquer la valeur Pancasila dans la vie quotidienne. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 3 octobre 1943, l'anniversaire de l'armée des volontaires défenseurs de la patrie, ou plus souvent désigné sous l'acronyme PETA, c'est une unité paramilitaire formée par l'armée impériale japonaise au cours de l'occupation japonaise des Indes néerlandaises pendant la Seconde Guerre mondiale. PETA a été créé le 3 octobre 1943 basé sur une déclaration Osamu Seirei numéro 44 publiée par le commandant de la 6e armée japonaise, le lieutenant général Kumakichi Harada, comme armée de volontaires. L'entraînement de la troupe est centralisé au complexe militaire de Bogor, auquel on donne le nom japonais de Boi Gyugun Kanbu Resentai. L'armée PETA a joué un rôle important dans la guerre d'indépendance de l'Indonésie. Quelques dirigeants nationaux qui ont joué à PETA, entre autres l'ancien président Suharto et le général Sudirman. Le 3 octobre 1965, la découverte des corps des officiers de l'armée de terre de la République d'Indonésie, les victimes du mouvement de 30 septembre. La découverte des corps des officiers de l'armée de terre est la fin des activités du Parti communiste indonésien, qui est devenu plus tard le Parti interdit en Indonésie, et dans le même temps, la chute du régime de l'ancien ordre et la chute de Sukarno en tant que président. Le 3 octobre 1990, la réunification de l'Allemagne. La réunification allemande est le processus qui a conduit à l'intégration de la République démocratique allemande dans la République fédérale d'Allemagne. Après l'effondrement de l'Union soviétique à la fin de 1990, l'Allemagne de l'Est touchait aussi son impact. Précédée par l'effondrement du mur de Berlin par des milliers d'Allemands en novembre 1989. Enfin, les autres fonctionnaires de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest se sont réunis et ont publié une déclaration pour réunir la ville de Berlin, qui est séparée par un mur, comme un symbole de l'affrontement de la guerre froide entre l'Occident et l'Orient. Le 3 octobre 1990 à Berlin, des centaines de milliers de gens ont chanté les chansons de Beethoven et agitant des drapeaux rouges, or et noir, après que des responsables allemands ont déclaré officiellement l'Allemagne réunifiée. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, bonsoir. Voici donc la mise au point et un pour le titre. Le programme de transmigration soutient la sécurité alimentaire. Le gouvernement indonésien a organisé des programmes de transmigration depuis des décennies. Le programme vise entre autres à égaliser la population et occuper des terres vides dans diverses provinces telles que Sumatra, Kalimantan, Sulawesi et la Papouasie, afin que la terre puisse être utilisée pour les terres agricoles. Le ministre du développement des régions défavorisées et de la transmigration, Eko Putro Sanjoyo, dans une discussion sur la transmigration vendredi 30 septembre 2016 à Yogyakarta, a déclaré que le programme de transmigration qui se poursuit depuis des décennies a prouvé que le programme est en mesure de soutenir la disponibilité de nourriture en Indonésie. Cité de Kompas.com, selon le ministre Eko Putro Sanjoyo, le programme de transmigration est en mesure de contribuer à la production de riz d'environ 8,4 millions de tonnes de riz usinées par an des champs de riz gérés par le transmigrant. Grâce au programme de transmigration, il y avait 50 régions comme le centre du palmier à huile dans les régions de transmigration. La production alimentaire dans les zones de transmigration a également été développée avec l'intégration amont-aval par l'intermédiaire de l'industrialisation. Dans les zones de transmigration, il y avait 3,38 millions d'hectares de terres potentielles pour le développement de la nourriture afin de soutenir la sécurité alimentaire nationale. Dans 66 ans de la mise en œuvre du programme de transmigration en Indonésie, environ 8,8 millions de transmigrants ont senti le profit de la transmigration. Les transmigrants obtiennent directement les emplois dans de nouvelles régions qui ont finalement réussi à améliorer leur bien-être à un meilleur niveau. En outre, le programme de transmigration crée également un nouveau centre de croissance avec la construction de 3608 colonies de peuplement de transmigration. Le ministre Eko Putro Sanjoyo espère qu'afin de soutenir les objectifs de sécurité alimentaire nationale, chaque village peut être concentré pour produire un produit de qualité supérieure qui est lancé à travers le programme Un village, un produit. Il a ajouté, ainsi, chaque village peut produire un produit avec une grande échelle. Pendant ce temps, dans la même occasion, un économiste Sri Edi Suasono a déclaré que la crise alimentaire qui a eu lieu en Indonésie a récemment été résultat de la négligence du gouvernement envers l'existence du programme de transmigration depuis 1998. Il a également expliqué que la revitalisation du programme de transmigration sera en mesure d'aider à résoudre la crise alimentaire. Pendant ce temps, l'agence de Nouvelles Antara a rapporté que l'ancien ministre de la Transmigration, Susuono Yudo Husodo, a dit que, sur la base des observations, le programme de transmigration en Indonésie a diminué d'année en année. En conséquence, l'Indonésie est un importateur de produits alimentaires tels que le sucre et le soja, le plus grand dans le monde depuis 2013. Selon lui, si le problème n'est pas surmonté immédiatement avec les actions concrètes, ces importations continueront d'épuiser les devises du pays. En outre, il a dit, l'augmentation du programme de transmigration dépend des décisions politiques du gouvernement actuel. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Les questions impliquant les deux pays sur la péninsule coréenne, à savoir la Corée du Sud et la Corée du Nord, ont duré longtemps et n'ont pas encore trouvé la solution. Les deux pays sont toujours en désaccord et donnent l'effet négatif sur la paix du monde entier. Par conséquent, l'Indonésie et d'autres pays dans tout le monde continuent de soutenir la solution pacifique des différends entre les deux pays. Il a été affirmé par le président du Parlement indonésien, M. Ade Komarudin, dans son discours lors de la Journée nationale de la Corée du Sud et la Journée des forces armées de la Corée du Sud, vendredi, le 30 septembre 2016, à Jakarta. En tant que représentant du peuple indonésien, j'insiste, le gouvernement de l'Indonésie a coopéré avec d'autres parties internationales afin de discuter, de recommander les solutions immédiates et durables pour les deux pays, la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée. Ade Komarudin a également ajouté que le soutien de l'Indonésie à la solution des problèmes entre la Corée du Sud et la Corée du Nord était l'une des formes de la réalisation d'un message des pères fondateurs de la nation pour que l'Indonésie continue de maintenir activement et établir la paix mondiale. La coopération entre l'Indonésie et la Corée du Sud, qui a établi plus de 4 décennies depuis 1973, se développe d'année en année. L'un des domaines de la coopération qui est en croissance est le domaine économique. L'Indonésie est un partenaire stratégique de la Corée du Sud dans le domaine économique, notamment en termes d'investissement. Cela a été affirmé par le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, M. Rudian Tara, dans un discours à la fête nationale du Sud-Coréenne et la journée des forces armées de la Corée du Sud vendredi, le 30 septembre 2016 à Jakarta.
In the economic field, in 2015, Korea placed itself as the fifth...
Dans le domaine économique, en 2015, la Corée a placé comme le 5e plus grand investisseur en Indonésie et pour atteindre 1,2 milliard de dollars américains dans plus de 2 000 projets. Le président Park a engagé à encourager l'investissement de la Corée en Indonésie, notamment dans le domaine des infrastructures, l'énergie, l'acier et la fabrication. Le ministre Rudian Tara a également ajouté que le commerce entre l'Indonésie et la Corée du Sud se développait aussi avec la valeur commerciale croissante de 16 milliards de dollars américains. Le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, M. Rudian Tara, a déclaré que la coopération entre l'Indonésie et la Corée du Sud dans divers secteurs se renforce d'année en année. L'un des domaines de coopération stratégique continue d'exister et sera renforcé est le domaine de la défense. Cette coopération mutuellement bénéfique n'a pas arrêté ici. Nous avons même développé une coopération bilatérale plus stratégique, à savoir l'industrie de la défense. Pour les 2 dernières années, les ingénieurs des 2 pays ont travaillé ensemble pour construire des avions de chasse et les sous-marins étaient absolument pour auto-développer. Le ministre Rudian Tara a ajouté que la coopération bilatérale actuelle entre l'Indonésie et la Corée du Sud est plus renforcée en augmentant les relations entre les peuples des 2 pays. Ces améliorations apparaissent à travers l'approche socio-culturelle qui est caractérisée par une augmentation des visites touristiques entre les 2 pays et la coopération dans le domaine de l'économie créative. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre des Transports, M. Budi Karya Sumadi, continue à obtenir le soutien des États membres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, ou ICAO, à Montréal, le Canada, pour que l'Indonésie puisse devenir le membre de cette organisation. Le responsable de la communication et de l'information, M. Hemi Pamura Harjo, dans un communiqué de presse reçu par Republika en ligne, a déclaré dimanche que le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a fait des réunions avec des représentants de plusieurs pays pour mener l'approche directe afin que ces pays soutiennent l'Indonésie devenir le membre du conseil de OACI pour la période de 2016 jusqu'à 2019. L'élection des membres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale aura lieu le mardi 4 octobre 2016 et participée par tous les États membres. Le ministre de l'Industrie est optimiste que l'Indonésie peut devenir un important exportateur de café torréfié aux grands torréfiés en Asie et dans le monde. Comme le 4e plus grand producteur de café dans le monde, l'Indonésie a un grand potentiel dans le développement de l'industrie de transformation du café. À cette fin, le développement de l'industrie est fait en augmentant la valeur ajoutée des grains de café et l'amélioration de la qualité du café transformé, notamment le café torréfié à travers la maîtrise de la technologie de torréfaction. Il a été dit par l'autre fonctionnaire du ministère de l'Industrie, M. Pangga Susanto, dimanche à Jakarta. L'autre effort est d'augmenter la capacité des ressources humaines. Il est engagé à développer l'industrie de transformation du café dans le pays par de divers programmes et politiques stratégiques. Le gouvernement provincial de Java Central efforce d'optimiser l'exportation de batik de diverses régions afin d'augmenter les recettes locales. Le membre de la commission B du Parlement régional de Java Central, M. Hissan Mustafa Asmaran, a déclaré dimanche que jusqu'à présent, la contribution des exportations de batik ne peut pas encore augmenter le revenu dans le centre de Java. Donc, il doit être optimisé. Selon lui, la province de Java Central possède de nombreux motifs de batik qui peuvent être vendus à l'étranger. L'industrie du batik peut augmenter l'économie régionale. Maintenant, le batik de Java Central a pénétré le marché international. Le batik est l'héritage culturel des ancêtres. Il a aussi une valeur économique élevée. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous à nouveau dans notre magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous présentons une richesse culturelle de l'Indonésie reconnue par le monde. Alors, restez avec nous, la Voix d'Indonésie, le service international de Radio République Indonésia. Outre les ondes courtes, vous pouvez aussi écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, le peuple indonésien vient de commémorer la Journée nationale du batik le 2 octobre. Il y a 7 ans, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a fixé le batik comme patrimoine culturel immatériel. Batik est une technique d'impression sur les étoffes en utilisant le cire. Le mot batik provient du langage javanais, comprenant des mots amba et tik. Amba signifie écriture et tik signifie titik, en français point. La définition complète de batik est l'ensemble de points qui est dessiné avec de beaux motifs. Chers auditeurs, chaque région d'Indonésie a un motif de batik parce que le motif de batik peut être influencé par la géographie, les coutumes locales, les conditions naturelles et sociales de son peuple. Le batik est généralement identique aux régions en Java. En fait, le batik n'appartient pas seulement à Java. La Papouasie a également le batik qui est aussi intéressant que le batik de plusieurs régions en Indonésie. Si habituellement, la couleur de batik a la tendance à être douce et sombre, le batik de Papouasie est connu pour les couleurs vives et variées comme jaune, vert, bleu et rouge. En termes de motifs, le batik de Papouasie utilise habituellement le motif kamoro ou sculpture en position debout, le motif des oiseaux de paradis, le motif de maison honai et le motif d'asmat ou statue en bois de l'ethnie asmat et le motif sentani. En général, le motif du batik de Papouasie affiche la nature et la culture de Papouasie. Le batik Prada est un tissu de batik dans lequel le motif est développé avec une touche des lignes d'or. Pendant ce temps, le batik ordinaire n'utilise pas des lignes d'or. En termes de prix, le batik Prada est plus cher que le batik ordinaire. Comme la plupart du batik existant actuellement, Le batik de Papouasie est également disponible dans une version de batik tulis ou le batik dessiné à la main et le batik imprimé. Batik tulis est fait de façon traditionnelle et a une valeur artistique, tandis que le batik imprimé est fait par une machine d'impression. C'est bien sûr, ces deux types ont une grande qualité différente. Les origines du batik de Papouasie ont commencé lorsque le gouvernement indonésien a reçu une aide du Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, d'autonomiser la culture de l'Indonésie de l'Est en 1985. Le gouvernement a invité directement les artisans du batik de Java, notamment de Yogyakarta, pour former des gens de Papouasie. La fabrication du batik de Papouasie est également inspirée par des reliques archéologiques dispersées dans la région de la Papouasie, comme des peintures rupestres dans la région de Biak. En outre, le patrimoine d'artefacts et d'autres fossiles inspire également la créativité du batik de Papouasie. Le batik de Papouasie est considéré comme non seulement un élément historique, mais aussi des éléments archéologiques dedans. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Le batik de Papouasie enrichit la variété de batik d'archipel ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, nous nous rencontrons de nouveau dans la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide de parler indonésien. Le sujet aujourd'hui est « Ketoko buku » ou en français veut dire « à la librairie ». Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. « Toko buku »« Toko buku » en français « librairie ». Pulang kantor, pulang kantor. En français, retourner du bureau. Membelikan, membelikan. En français, acheter. Perlengkapan, perlengkapan. En français, équipement. Sekolah, sekolah. En français, école. Anak, anak. En français, enfant. Ikut, ikut. En français, suivre. Calculateur, calculateur. En français, calculatrice. Buku tulis, buku tulis. En français, cahier. Penjepit kertas atau paperclip. Penjepit kertas atau paperclip. En français, trombone. Stapler, stapler. En français, aggraveuse. Kotak pensil. En français, plumière. Pulpen, pulpen. En français, stylo. Pensil, pensil. En français, rayon. Penggaris, penggaris. En français, règle. Jangka, jangka. En français, compas. Karet penghapus, karet penghapus. En français, gomme. Lupa, lupa. En français, oublier. Kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Inggris. En français, dictionnaire anglais. Enveloppe, enveloppe. en français, enveloppe. Matraille, matraille, en français, seau. Makan, makan, en français, manger. Bakmi, bakmi, en français, nuit. Tunggu, tunggu, en français, attendre. Lapangan parkir, lapangan parkir, en français, parking. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre que toco beaucoup ou en français veut dire à la librairie. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. C'est une conversation entre Tuti A et Susan B au bureau. A. Pulang kantor, kamu mau kemana? Pulang kantor, kamu mau kemana? En français. Retournant du bureau, où allez-vous? B. Saya mau ke toko buku. Saya mau ke toko buku. En français. Je veux aller à la librairie. B. Saya mau membelikan perlengkapan sekolah anak saya. Saya mau membelikan perlengkapan sekolah anak saya. En français, je veux acheter l'équipement d'école de mon enfant. A. Kalau begitu, saya ikut. Kalau begitu, saya ikut. En français, je me suis joint donc. A. Saya mau membeli kalkulator, buku tulis, penjepit kertas, dan stapler. Saya mau membeli kalkulator, buku tulis, penjepit kertas, dan stapler. En français, je veux acheter une calculatrice, les cahiers, le trombone, et une agrafeuse. A. Kamu mau membeli apa untuk anak kamu? Kamu mau membeli apa untuk anak kamu? En français, vous voulez acheter quoi pour votre enfant? B. Saya mau membeli kotak pensil, pulpen, pensil, penggaris, jangka, dan juga karet penghapus. Saya mau membeli kotak pensil, pulpen, pensil, penggaris, jangka, dan juga karet penghapus. En français, je vais acheter le plumier, stylo, crayon, règle, compas et aussi la gomme. A. Oh ya, saya lupa. Oh ya, saya lupa. En français, oh, j'oublie. A. Saya juga mau membeli kamus bahasa Inggris. Saya juga mau membeli kamus bahasa Inggris. En français, je veux aussi acheter le dictionnaire anglais. B. Oh ya, selain itu, saya juga mau membeli amplop dan juga materai. Oh ya, selain itu, saya juga mau membeli amplop dan juga materai. En français, il faut qu'avant d'aller à la librairie, de passer manger d'abord. A. Saya mau makan bakmi. Saya mau makan bakmi. En français, je veux manger des nouilles. B. Baiklah, nanti saya tunggu kamu di lapangan parkir ya. Baiklah, nanti saya tunggu kamu di lapangan parkir ya. En français, eh bien, je vais attendre pour vous dans le parking. Chers auditeurs, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain.
Couleur du son, programme de musique et des chansons indonésiennes.
Chers amis de Katakoran Dumont, la voix de l'Indonésie, voici le magazine de musique, édition de lundi, avec rythme de Kroncong. Et pour ce soir, je vous présente le chanteur Bruri Marantika. Bon, comme l'ouverture de notre rencontre, écoutez d'abord la chanson Senandung Rindu chantée par Bruri Marantika. Bonne écoute. Chers amis, on peut dire que cette chanson est ancienne au rythme de pop, mais par Bruri, il ressemble pour le rythme de Kroncong. Chaque chanson a une histoire, cependant la parole contient le souvenir du passé qui sont beaux et mauvaises, ainsi que la chanson Senandung Rindu qui possède des souvenirs du passé. Chers amis, le vrai nom de Bruri Marantika est Simon Domingus Pesolima. Il est né le 25 juin 1948, mais en ici, il est plus connu avec le nom Bruri Marantika. Sa voix est si belle. Pour les Indonésiens, il est plus calme. De plus, il a publié beaucoup d'albums. Bon, avant de continuer, allez encore écouter la chanson suivante de Bruri, intitulée Pamit. Chers amis, la chanson Pamit raconte la séparation avec un amant. Vous savez, la vie quelquefois est si dure. On laisse souvent ce qu'on aime pour aller l'autre personne. Mais on a l'occasion, ça marche bien. Chers amis, vous savez, Bruri Marantika a toutefois changé son nom devenu Bruri Abdullah. Quand il s'est marié avec la chanteuse singapourienne Anita Sarawak. Mais il a changé encore devenir Bruri Marantika après la divorce. Quand il était duo avec la chanteuse Dewi Yul, il a gagné le prix ainsi qu'en Malaisie en 1997 avec la chanson Surat untuk Kekasih. Auparavant, en 1996, Bruri avait gagné aussi le prix pour le meilleur album avec la chanson Hapuslah Air Mata. En Indonésie, il a gagné dans 6 catégories lors du Festival de musique de Jakarta avec la chanson Once There Was Love en 1991. Chers amis, c'était le chanteur Bruri Marantika. Merci de votre attention et fidélité. Et avant de vous quitter, écoutez d'abord deux dernières chansons de Bruri Marantika intitulées Hati yang terluka et Untuk apa lagi. Bonne écoute et au revoir.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Et si ça termine l'émission pour aujourd'hui, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta. ku PO Box 1057 Jakarta Timil Ongs, Indonesia. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.